ans pour Georgi Filipov, rémunéré pour taguer les mains rouges, et pour Kirill Miloutchev, complice des dégradations, pour les avoir filmés, assorti pour tous les quatre d'une interdiction définitive du territoire français.
Radio G, 101.5 FM.
Pour d'idées de lecture, envie de découvrir de nouveaux genres ou juste à la recherche d'un premier pas dans le monde des livres, Voix au chapitre, c'est ta dose hebdomadaire de découverte littéraire. Un livre, un extrait, deux émissions. Juste ce qu'il faut pour réveiller la curiosité et l'envie de tourner les pages. Présenté par Manuela, tous les samedis à 9h10 au 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bonjour et bienvenue. Nouvelle semaine, nouvelle découverte littéraire. Les deux émissions précédentes étaient consacrées au roman « Le meurtre du commandeur » d'Haruki Murakami. Vous pouvez les retrouver sur radio-g.fr, rubrique « Voix au chapitre ». Vous pourrez aussi bientôt retrouver l'actualité de l'émission sur sa page Instagram du même nom. Pour cette nouvelle semaine, je vais donner voix au roman « Immortel » de J.R. Dos Santos. C'est un thriller avec comme thème principal la génétique et tout ce que la science est aujourd'hui capable d'accomplir. L'on pourrait presque croire à de la science-fiction au vu des sujets abordés. Mais l'auteur a fait énormément de recherches sur son sujet. Ses sources sont d'ailleurs listées à la fin du roman. Donc il n'y a pas une once de fictionnel dans ces technologies abordées. Je vais vous faire découvrir le sujet en question dans les deux prochaines émissions. On se retrouve après cet extrait. Bonne écoute sur Radio G. Un homme en costume, un asiatique mais de culture visiblement occidentale, s'approcha du micro qui se trouvait au milieu de l'estrade. C'était Robert Ho, le doyen de l'université de Hong Kong. « Bonjour à tous », dit Ho dans un mandarin hésitant, car il était plus à l'aise en cantonais ou en anglais. « Aujourd'hui, notre invité est une célébrité méconnue. Père d'un grand héros chinois, le célèbre astronaute Yao Jingming, le professeur Yao Bai est le plus éminent scientifique de Chine. Son nom est bien connu dans les milieux universitaires, en particulier dans les domaines de la biotechnologie, des sciences cognitives et de l'intelligence artificielle. Mais rares sont ceux qui ont eu le plaisir de le rencontrer personnellement. En fait, c'est un personnage tellement insaisissable que d'aucuns ont pu penser qu'il n'était qu'une légende, inventée par les autorités de Pékin. Rire dans la salle. Quand nous avons commencé à planifier cette conférence internationale sur le génome humain, nous avons aussitôt envisagé d'en faire notre invité d'honneur, tout en étant conscients qu'il serait pratiquement impossible de le faire venir. Nul n'imagine les heures que nous avons passées, les efforts que nous avons déployés, les promesses que nous avons faites, les personnes qu'il a fallu contacter. Mais nous y sommes arrivés. Mesdames et messieurs, le professeur Yao Bai. Son corps rondouillard, son expression débonnaire et sa barbe effilée donnaient au professeur Yao Bai un air de Kung Fuji. Le sage Kong, plus connu en Occident sous le nom de Confucius. Outre sa réputation de génie et le fait qu'il était le père de l'astronaute le plus célèbre de Chine, son allure suscitait la sympathie dans l'amphithéâtre. Cachant sa nervosité, le scientifique chinois se leva sous un tonnerre d'applaudissements, se dirigea vers le centre de l'estrade, salua le recteur d'une révérence et se planta devant le micro. Le moment était venu de faire ce qu'il s'était promis. Il jeta sur l'assistance un regard inquiet, fixant les visages souriants des jeunes et ceux réservés des hommes en costume cravate. Il fut tenté de sécher la sueur qui lui couvrait à nouveau le front, mais il se retint. Il devait se concentrer sur l'objet de sa présence ici. C'était tout ce qui comptait. Pendant des millénaires, l'humanité a été obsédée par les limites de sa condition animale, commença-t-il dans un mandarin parfait. La fin fut le plus grand de ces mots. Les hommes ont vécu la quasi-totalité de leur existence au bord de la pénurie, passant des jours et des jours sans manger et sans savoir quand ils trouveraient quelque chose à se mettre sous la dent. Il suffisait d'une mauvaise récolte et la moitié de la famille périssait. Une sécheresse et la famine décimaient d'un seul coup 10% de la population. Quant aux épidémies, n'en parlons pas. Les gens étaient toujours malades et tombaient comme des mouches. À elle seule, la peste noire a tué entre 70 et 200 millions de personnes en Eurasie. Dans certaines villes, la moitié de la population a disparu. Pouvez-vous imaginer l'ampleur de la catastrophe ? Il fit une pause pour permettre au public d'assimiler ce qu'il venait de dire. Nous n'avons de cesse de nous plaindre de tout, affirmant que la situation s'aggrave constamment. Mais nous oublions facilement à quel point la vie était plus difficile pour nos ancêtres, reprit-il. À notre époque, celui qui perd son emploi ne risque pas de mourir de faim. Au contraire, dans une économie développée, un chômeur peut très bien aller au restaurant pour se plaindre de son sort, tout en se délectant de deux ou trois shumei qu'il paiera avec son allocation chômage. À bien y regarder, il y a actuellement sur notre planète bien plus de gens qui souffrent de surpoids que de la faim. L'obésité est même devenue l'un des plus grands maux de l'humanité. Il suffit de me regarder pour s'en rendre compte. Des éclats de rire se firent entendre dans l'amphithéâtre. Aujourd'hui, le sucre tue plus que les balles. Compte tenu de ces progrès, je vous demande, que nous reste-t-il à résoudre ? Il dévisagea l'auditoire avec une expression interrogative. La question pouvait paraître purement rhétorique, mais son regard obstiné et son silence prolongé, comme s'il espérait une réponse, indiquait clairement qu'il attendait une réaction du public. Une jeune fille au premier rang, sûrement une de ses bonnes élèves comme il en existe dans toutes les classes, de l'école primaire à l'université, leva la main. Les maladies ? Malgré sa nervosité, le professeur Yaobai réprima un sourire. L'étudiante avait posé exactement la question à laquelle il s'attendait. Ah, comme l'esprit humain était prévisible. C'est en effet le prochain défi à relever, convint l'érudit chinois. Nous avons surmonté la faim. Il nous reste à éliminer les maladies. La médecine est dominée par deux écoles, la chinoise et l'occidentale. L'école occidentale est particulièrement efficace en ce qui concerne les maladies déjà déclarées. Lorsqu'une personne a un problème cardiaque, les médecins occidentaux lui font une greffe. Un cœur nouveau et le problème est résolu. L'école chinoise est surtout efficace en matière de prévention. Nous aimons traiter les maladies avant qu'elles ne surviennent. D'où nos infusions, nos herbes, la recherche de l'équilibre entre le yin et le yang, et ainsi de suite. Comme vous pouvez le deviner, étant chinois, je m'inscris davantage dans cette tradition. Il me semble préférable d'empêcher l'apparition d'une maladie que de la soigner après coup. C'est aussi votre opinion, du moins je l'espère. Un cœur d'assentiment parcourut la salle. Le professeur Yaobai jeta un coup d'œil aux hommes en costume cravate, craignant presque de les voir s'élancer sur l'estrade pour lui tomber dessus. Mais de toute évidence, il restait tranquille, n'ayant aucune idée de ce qui allait arriver. Grâce à la cartographie du génome humain et à la meilleure compréhension du code génétique, nous nous sommes rendus compte que la plupart des maladies dont nous souffrons sont inscrites dans nos gènes, même si le fait qu'elles se déclarent ou non dépend également de facteurs environnementaux. Ma propension aux maladies cardiaques, par exemple, est génétique. Si je ne prends pas certaines précautions dans mon alimentation et mon style de vie, tôt ou tard, j'aurai des problèmes de cœur. L'idéal, bien sûr, aurait été que mes parents, lorsqu'ils m'ont conçu, aient pris soin de corriger mes gènes pour faire en sorte que ces maladies ne se déclarent pas. Cela aurait été de la médecine préventive du plus haut niveau. Et puis, pendant qu'ils y étaient, ils auraient pu en profiter pour améliorer les gènes de mon intelligence, pour me rendre plus ingénieux, ainsi que ceux de mon obésité, afin que je puisse manger tous les shumei dont j'ai envie, sans me retrouver dans cet état pitoyable. D'un geste, il désigna son corps aux rondeurs confucéennes et le public sourit à nouveau. Les plaisanteries d'autodérision atteignaient toujours leur objectif et sans jamais offenser personne. Cependant, pour que mes parents puissent le faire à cette époque, il aurait fallu connaître le rôle des gènes et la technique pour les manipuler, reprit-il. Nous avons cette connaissance aujourd'hui, et la technique aussi. Elle s'appelle CRISPR-Cas9. Il s'agit d'une technique qui permet de supprimer, d'ajouter et de modifier des sections dans les séquences d'ADN. Grâce à CRISPR-Cas9, je peux, par exemple, retirer d'un embryon les gènes des maladies cardiaques et de l'obésité. Avec cette même technique, je peux également introduire dans l'embryon les gènes de l'intelligence, ceux d'une musculature d'athlète et des yeux bleus. En d'autres termes, je peux créer un être humain entièrement nouveau, sans maladie génétiquement déterminée, et l'améliorer à bien des égards. Plus beau, plus fort, plus intelligent. En un mot, je peux créer un surhomme. Vous écoutez toujours Voix au chapitre sur Radio G, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr, où je vous plonge aujourd'hui dans le roman Immortel de J.R. Dos Santos. Bonne écoute! Il se tut un instant, fixant le public. Rien de tout cela n'était vraiment nouveau. Il le savait, tout comme l'ensemble des étudiants. La communauté scientifique connaissait depuis longtemps les questions génétiques et des techniques telles que CRISPR-Cas9, bien que relativement inédites, n'étaient pas vraiment une nouveauté. En outre, nombre de ces étudiants travaillaient dans les laboratoires de l'université avec CRISPR-Cas9. Le professeur Yaobai respira profondément, se préparant à porter l'estocade finale. N'était-ce pas Lao Tzu qui avait dit que même un voyage de 1000 lieues commence par le premier pas ? L'heure était venue. Mesdames et messieurs, je tiens à vous annoncer que cette année, grâce au travail de mon équipe, sont nés en Chine 2 enfants auxquels nous avons retiré le gène CCR5, qui joue un rôle crucial dans le sida, déclara-t-il sur un ton solennel. En recourant à CRISPR-Cas9, nous avons génétiquement manipulé les embryons de jumelles qui sont nés en bonne santé. Et bientôt naîtra un autre enfant qui a bénéficié du même traitement. Mesdames et messieurs, l'avenir est déjà là. Il s'inclina, fit demi-tour et retourna à sa place. Certaines personnes applaudirent, mais la plupart demeurèrent silencieuses, digérant ce qu'elles venaient d'entendre et se demandant même si elles avaient bien entendu, tant la déclaration était soudaine et inopinée. Après une courte pause, le professeur Robert O, en sa qualité d'hôte, reprit le micro et, manifestement perturbé, clôtura la séance. Encore perplexes, les premières personnes commencèrent à se lever et à quitter la salle. Le professeur Yaobai s'éloigna de l'estrade, mais alors qu'il descendait les marches, 4 hommes portant costume noir et cravate l'entourèrent. « Vous devez vous trouver très drôle, professeur !» grogna celui qui était à la tête du groupe, visiblement agacé. « Venez avec nous !» Les hommes l'attrapèrent et commencèrent à le traîner le long du couloir. « Lâchez-moi !» protesta le scientifique en essayant de se libérer. « Aïe, laissez-moi !» « Arrêtez votre cinéma, professeur !» conseilla le même homme sur un ton froid. « Venez avec nous !»« Qui êtes-vous ? Que me voulez-vous » »« Vous le savez très bien, professeur. Allez, venez !» Le professeur Yaobai hésita. Il savait pertinemment qui ils étaient. Il avait toujours su qu'ils viendraient et l'emmèneraient, mais il n'avait pas imaginé que ce serait aussi rapide, ni qu'ils agiraient ouvertement devant tant de monde. Il aurait tellement aimé pouvoir se promener à Kowloon, visiter le fameux hôtel Peninsula, et admirer la flotte de Rolls-Royce à l'entrée, monter au pic et faire du shopping à l'Ocean Terminal. Car c'était la première fois qu'il avait été autorisé à traverser les frontières traditionnelles de la Chine. Mais il était clair qu'il ne pourrait rien faire de tout cela, ni maintenant, ni jamais. Résigné, il se laissa entraîner par les 4 hommes en costume jusqu'à la camionnette noire qui les attendait discrètement à l'arrière de l'université. C'est ainsi qu'ils l'enlevèrent. Les yeux du colonel Lee était froid et ses lunettes rondes semblaient les rétrécir encore un peu plus, les rendant anormalement petits. C'étaient les yeux petits et froids d'un homme calculateur. Le professeur Yaobai, dont les travaux avaient impliqué des recherches en matière de haute sécurité, avait déjà eu affaire à cet officier, avec lequel il ne s'était jamais senti à l'aise. Ni avec lui, ni avec ses camarades. À vrai dire, qui en Chine pouvait se sentir à l'aise avec un officier du ministère de la Sécurité d'État ? Le seul avantage était qu'il échappait à la redoutable commission centrale d'inspection disciplinaire, ce qui signifiait qu'il ne serait pas soumis à une purge idéologique. Mais il ne se faisait pas d'illusions sur ce qui l'attendait. Le MSE était l'Agence de sécurité et de renseignement de la République populaire de Chine, un organisme qui remplissait des fonctions équivalentes aux États-Unis à celles qui résulteraient de la fusion du FBI avec la CIA. Impossible de se sentir à l'aise avec un tel homme à vos côtés. Le colonel ferma la porte de la cellule et scruta le prisonnier. Il le dévisagea pendant un long moment, en silence, comme s'il le jaugeait. Ou plus probablement, comme s'il attendait le moment le plus propice pour commencer la cérémonie du thé. Euphémisme de la police chinoise pour désigner les interrogatoires. À supposer qu'il fût là pour procéder à un interrogatoire. Cela ressemblait surtout à un jeu dans lequel le chat cherchait à intimider la souris. À ceci près que la souris était beaucoup plus intelligente que le chat, qui de son côté était plus rusé. Ou peut-être pas. Le jeu allait commencer. Aïe, s'exclama soudain le colonel Lee. Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit à Hong Kong? Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Rien de mal, répondit le scientifique sur un ton serein et sage, tel Confucius. Je me suis contenté d'assister à une conférence sur le génome humain, du reste dûment autorisée par le ministère de la Sécurité d'État, et j'ai communiqué à mes distingués confrères les résultats d'une expérience scientifique menée par nos laboratoires. Tout me semble normal. Le colonel plissa les paupières, durcissant son expression. Le chat n'était pas disposé à laisser la souris jouer avec lui. « Ne faites pas l'innocent et ne vous moquez pas de moi », menaça-t-il. « Nous vous avons autorisé à aller à Hong Kong, pas à exposer l'expérience. » « Mais c'était une conférence sur le génome humain », insista le professeur Yao Bai, comme s'il formulait une évidence. « Il ne m'est jamais venu à l'esprit que, puisque j'avais été autorisé à participer à une conférence sur le génome, je ne pouvais pas parler de la plus importante expérience scientifique menée par la Chine dans ce domaine. » Si je ne pouvais pas évoquer l'expérience, de quoi allais-je parler? Des soldats en terre cuite? Je vous préviens, professeur, ne jouez pas avec moi, murmura le colonel Lee, en bougeant à peine ses lèvres fines. Vous étiez parfaitement conscient que cette question était confidentielle. Bien sûr, mais j'ai supposé que si on me permettait de participer à une conférence sur le génome, c'était parce que le secret qui entourait l'expérience avait été levé. Est-ce que par hasard quelqu'un vous aurait indiqué que le secret avait été levé? Qui a fait ça? Je veux des noms. Le professeur Yao Bai esquissa une moue d'étonnement, signifiant que la réponse était si évidente que les questions n'avaient aucun sens. Pour moi, c'était ce que signifiait implicitement l'autorisation de participer à une conférence sur ce sujet, affirma-t-il. Je n'ai pas songé un instant que l'on m'envoyait parler du génome humain sans que je puisse évoquer ce que l'on faisait de novateur en Chine dans ce domaine. C'est comme si les États-Unis envoyaient Neil Armstrong à une conférence sur la Lune sans l'autoriser à évoquer le voyage qu'il a fait en 1969. Ça n'a pas de sens. Et puis, quel mal y a-t-il à révéler que nous avons procédé à des manipulations génétiques pour lutter contre le sida? Cela donne même une image positive de la Chine, car cela montre que nous sommes préoccupés par la santé de l'humanité. Vu la façon catastrophique dont nous avons géré la pandémie de Covid-19, en la laissant se répandre dans le monde entier, éradiquer le sida serait une excellente façon de sauver la face. Nous avons sauvé la face en apportant notre aide au monde entier, rétorqua l'officier. Inutile d'essayer de noyer le poisson. Vous savez très bien que le gène que vous avez manipulé ne concerne pas uniquement l'immunité contre le sida. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Il se cache donc un secret derrière les modifications génétiques liées au CCR5 et il faudra attendre la semaine prochaine pour avoir un aperçu supplémentaire des mystères de la modification de l'être humain in utero et du transhumanisme. Nous étions donc sur Immortel de J.R. Dos Santos. Vous pourrez toujours réécouter cette émission sur le site de Radio G, rubrique Voix au chapitre. Merci de m'avoir écouté pour cette nouvelle découverte littéraire du samedi matin. Pour continuer votre journée, restez connectés sur Radio G pour l'émission Samedi Souvenir de 10h à midi. Il est temps de tourner la page pour aujourd'hui. Bon week-end!
Radio G. Savourez nos différences en RNT sur Angers. Radio-g.fr.
Every day I'm